je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Le 17 mars dernier, en Corse, Pierre Alessandri a été assassiné. Ce paysan, membre de Via Campagnola, était connu pour son engagement syndical contre la spéculation, les fraudes et les pratiques mafieuses dans le monde agricole. Il avait 55 ans et son engagement ne s'arrêtait pas à ses propres terres. Il était secrétaire général de la Via Campagnola, syndicat agricole, membre de la Confédération paysanne. Pierre Alessandri a consacré plus de 30 ans à la défense du foncier agricole et de l'agriculture paysanne en Corse. Il a été moteur de nombreux projets collectifs comme des magasins de producteurs et il a participé à la formation de générations de militants et de militantes sur les dossiers agricoles en Corse. Il était aussi un militant engagé et offensif, nationaliste de gauche, sympathisant du mouvement Core in Fronte qui dénonçait avec force les dérives de l'agriculture insulaire. Une enquête a été ouverte concernant son assassinat. Pour l'instant, ça n'a rien donné. Pourtant, les pratiques de détournement de fonds sont connues en Corse. Le 3 décembre 2018, Anticor déposait une plainte contre X auprès du parquet national financier pour détournement, recel et blanchiment de subventions européennes. D'après l'association, 56 millions d'euros auraient été détournés par des agriculteurs entre 2015 et 2018, avec l'accord et la complicité des autorités de contrôle, c'est-à-dire les services de l'État et l'accompagnement de personnes très bien informées de la complexité et des failles du système de distribution des aides, à savoir les chambres d'agriculture, précise à l'époque Mediapart. Cette plainte s'est fondée sur un rapport confidentiel de l'Office européen antifraude, OLAF, qui pointait la revalorisation des aides agricoles allouées à la Corse, passée de 13,9 millions d'euros en 2014 à 36 millions d'euros par an pour la période 2015-2020. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ce dossier n'est pas encore clos puisque 3 hauts fonctionnaires seront prochainement jugés. Le directeur, la directrice adjointe du cabinet du ministre de l'Agriculture de l'époque, le socialiste Stéphane Le Foll, et ainsi renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds publics. Le président directeur général, en 2016, de l'Agence de services de paiement, l'organisme qui verse les aides publiques européennes, de la PAC, sera également jugé pour détournement de fonds publics. Enfin, le conseiller pour la Corse du ministre de l'Agriculture de l'époque est renvoyé pour complicité de détournement de fonds publics pour avoir organisé cette réunion en janvier 2016 et le montant d'aide illégalement versé pourrait être compris entre 370 000 euros et 1 million d'euros, précise l'accusation. Ces possibles détournements ont pu être mis en lumière grâce au courage de militants comme Pierre Alexandri. Salut Anticorps. Donc le 17 mars dernier, Pierre Alexandri a été tué de 2 balles dans le dos sur sa ferme de Corse. C'était pas la première fois qu'il était visé par une tentative d'intimidation puisqu'il avait déjà eu à subir un incendie criminel en 2018 qui avait détruit ses locaux. L'engagement de Pierre Alexandri contre le clientélisme a été conforté par la récente publication d'un rapport de la Cour des comptes critiquant la gestion passée de la Chambre d'agriculture. En janvier 2025, la Chambre d'agriculture de Corse, devenue une chambre de région unique, a finalement basculé lors des élections professionnelles en faveur d'une liste soutenue par Via Campagnola, détrônant ainsi la FNSEA. Tout ça s'est passé donc en janvier 2025, où Via Campagnola a détrôné la FNSEA. Le nouveau président de la Chambre d'agriculture de Corse, donc Jean-Pierre Baptiste Arena, membre de Via Campagnola, a tenu à rendre hommage à Pierre Alexandri. En 10 ans, il a payé le fait de son engagement, notamment au niveau du foncier, face à certaines bandes mafieuses. Devant les représentants des différentes chambres d'agriculture de France, 2 jours après son assassinat, le danger auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est un danger mafieux. La ministre de l'Agriculture, Annie Chenevard, a déclaré sur X que ses pensées les plus émues vont vers sa famille, ses proches et ses compagnons syndicaux, dont elle n'ose mesurer la peine qui les envahit. Et que la violence, le recours aux armes, n'ont pas leur place dans notre pays. Ça fait un peu léger quand même, puisqu'il n'y a pas eu de prise de position publique ni d'information large via les médias institutionnels sur l'assassinat de Pierre Alexandri. La Confédération paysanne s'indigne de l'absence de réaction d'autres membres du gouvernement, ni Gérard Darmanin, ministre de la Justice, ni Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, n'ont fait de déclaration au sujet de cette mort. On est face à l'assassinat d'un responsable syndical en activité et on n'a aucune réaction publique. Ce silence est effarant. Il n'y a eu aucune parole dans l'hémicycle. Son assassinat est un coup porté à la démocratie, à la parole libre, à l'engagement en faveur d'une terre que tant d'intérêts contraires cherchent à accaparer. Il faut que l'enquête avance et aboutisse. Vous allez entendre l'interview que nous avons pu réaliser avec une membre de la Confédération paysanne.
Bonjour.
Bonjour Laurence Marandola. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter ?
Oui, bonjour. Moi, je suis paysanne en haute montagne en Ariège, dans les Pyrénées, et je suis la porte-parole nationale de la Confédération Paysanne, qui est donc un syndicat agricole généraliste là, qui traite toutes les productions représentatives. On représente un paysan sur cinq en France.
L'objet de cette interview, c'est au sujet de l'assassinat le 17 mars en Corse de Pierre Alexandri. On avait vraiment envie d'y revenir parce qu'il y a eu vraiment un silence assourdissant autour de la mort de ce syndicaliste corse, puisqu'il était à Via Campagnola. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Via Campagnola et les liens qu'il y a entre ce syndicat et la Confédération Paysanne ?
Alors, Via Campagnola, c'est un syndicat corse agricole qui a de longues années derrière et qui est affilié à la Confédération paysanne au niveau national. C'est les valeurs de l'agriculture paysanne qui leur semblaient les nôtres, qui semblaient les plus proches de Via Campagnola. Et donc, Via Campagnola est affilié à la Confédération paysanne depuis fort longtemps. Mmh. Et dans les actualités très récentes, la Via Campagnola a gagné en Corse les élections professionnelles agricoles là, pour les chambres d'agriculture en janvier dernier. Et Pierre Alessandri était du coup, au moment de son assassinat là, le 17 mars dernier, encore secrétaire général de la Via Campagnola en Corse. Alors c'est vraiment un responsable syndical qui a été assassiné.
Est-ce que tu peux justement un petit peu nous parler de lui? Depuis combien de temps il est paysan en Corse et l'action qu'il menait sur ce territoire.
Ouais. Du coup, Pierre était 55 ans, était paysan depuis à peu près sa jeunesse. Depuis très longtemps, il avait repris la ferme de ses parents, pas très loin d'Ajaccio. Pour lui, c'était une évidence. Il avait avant, du coup, était à l'origine de la création d'un syndicat étudiant corse, donc proche des milieux nationalistes corses. Et puis, du coup, il s'est installé. C'est une démarche économique pour lui, mais c'était aussi une démarche politique, voilà, de travailler sur les terres de sa famille, de produire. D'abord des agrumes de variétés anciennes. C'est son père qui avait commencé ce travail de travailler avec des mandarines, des citrons, des oranges, avec des variétés corses très anciennes. Et rapidement, dans un souci économique et de valorisation un peu de tout, il a installé une distillerie pour distiller les agrumes, les écorces, les plantes sauvages, les licrises, là, les mortelles. Voilà, mmh. Donc à la fois sur son exploitation des agrumes et un gros travail autour de la distillation des huiles essentielles, il a toujours été extrêmement impliqué dans le syndicalisme. Je crois que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, au-delà de sa ferme, a toujours voulu défendre l'intérêt général et porter des choses. Voilà, militant, je le disais, depuis sa jeunesse, quand il était à la création d'un syndicat étudiant corse, à la Via Campagnola depuis toujours. Et dans le syndicalisme agricole, il s'était vraiment spécialisé sur deux sujets. Le premier, qui est la préservation des terres agricoles. Alors, c'est un vrai sujet partout en France, que les terres agricoles restent entre les mains d'agriculteurs et pour produire de l'alimentation et pas d'autres trucs. Les préserver de l'appétit, ce qu'on appelle l'artificialisation, c'est-à-dire que des terres agricoles puissent changer de destination pour construire en Corse des villas, parfois des autoroutes, plein de choses. Donc voilà, ça c'était vraiment, il avait toujours porté une très grande défense du foncier, que les terres agricoles restent agricoles et du partage entre agriculteurs. Et du coup, ces actions très fortes ont fait qu'il s'était beaucoup formé là-dessus. Et il siégeait pour nous, pour la Via Campagnola, la Confédération Paysanne, dans des instances qui existent dans tous les départements français, qui s'appellent, la SAFER, là, qui régule, qui distribue un peu les terres. Et surtout, là où ça a été très, très compliqué, ce qui s'appelle la CDPNAF, c'est un acronyme SLA, les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, où en fait, quand il y a des demandes pour que des parcelles agricoles puissent être changées de destination pour construire des baraques, une autoroute, un hôpital ou je ne sais quoi, en fait, arrêter d'être agricole, cette commission doit rendre un avis. Lui siégeait avec d'autres de nos camarades dans cette commission en Corse, et il le disait depuis très longtemps, il le disait, mais c'est horrible en fait, quand on siège là, on vote des décisions, oui, non, machin, à main levée, Et derrière la porte, il y a les promoteurs, parce que globalement, c'était pour convertir des terres pour des villas, en fait. Et voilà, c'était vraiment voilà, un enjeu majeur. Partout en France, on perd massivement des terres agricoles, et en Corse, plus qu'ailleurs. Et pourtant, il était, nos syndicats, très attachés à garder la production agricole en Corse. Et du coup, c'était très, très, très compliqué. Ça, c'était un de ces grands combats. Et l'autre, qui est un peu lié, en fait, c'est le fait qu'il y a des aides pour l'agriculture, et c'est normal, tous les secteurs économiques, on a des subventions, celles de la politique agricole commune. Et du coup, comme la plupart des subventions agricoles sont liées aux surfaces sur lesquelles on produit, on exploite, ou pas d'ailleurs, en fait, du coup, l'appétit sur le foncier, là, pour le coup, par des agriculteurs pour bénéficier des aides, est assez décuplé, et il a été particulièrement en Corse avec des pratiques assez scandaleuses d'accaparement d'aide et du coup de foncier. Ça, il l'avait beaucoup dénoncé dans les années 2017-2019, ce qui lui avait valu des menaces lourdes, et sa distillerie avait brûlé en fait, oui, en 2019, début 2019. Et c'était déjà extrêmement grave et dramatique. À ce moment-là, l'enquête avait conclu à, je ne sais plus les termes exacts, mais globalement, le juge avait dit que manifestement, c'était un incendie d'origine criminelle, très probablement lié à ses activités, à ses responsabilités syndicales. Du coup, voilà, on part pas de rien. C'est vraiment assez dramatique. Et par ailleurs, du coup, voilà, défendre le foncier, dénoncer et pousser pour des choses plus justes, plus transparentes en Corse sur les aides de la PAC. Et à côté, un travail inlassable de formation de militants, justement, à ces questions de formation sur les dossiers agricoles, sur les dossiers fonciers, d'être hyper impliqué dans du collectif, des magasins de producteurs. Là, il y en a un magnifique Ajaccio. Donc, j'y étais juste pour les obsèques et tout, magnifique, où il y a ses produits, où il avait contribué aussi à beaucoup de dynamiques collectives qu'on connaît et que nous, on appelle de nos voeux en agriculture. C'est une façon de pouvoir s'en sortir aussi. Donc voilà, à la fois de tenir très fort des lignes très, très fortes et essentielles encore sur le foncier, sur la transparence, sur les aides PAC, et d'être complètement au cœur de démarches de construction collective pour faire vivre l'agriculture et ses collègues agriculteurs.
Alors justement, lui, il dénonçait un système clientéliste et clanique qui prévalait dans l'attribution des aides agricoles, c'est ce que tu viens de dire, et pour enfoncer le propos, Anticor dénonçait entre 2015 et 2020 36 millions d'euros de détournement de fonds européens par an. C'est énorme. Donc là, c'est juste pour donner une dimension de ce à quoi il s'attaquait.
Quand même. Je ne sais pas si ces 36 millions, c'est exclusivement des subventions agricoles. Je pense que ça déborde le sujet.
Et je voulais juste aussi appuyer un tout petit peu sur la question de l'attribution des terres, où on voit d'une manière générale, sur l'ensemble de la France, que quand un fermier va part à la retraite, c'est souvent repris par des plus gros, alors que là il y a une demande de la part de la Confédération paysanne, et je pense de Via Campagnola, de réattribuer ces terres à des petits paysans pour continuer à faire vivre une agriculture qui propose un modèle plus durable et respectueux de l'environnement.
Oui, c'est ça. Oui. Oui, nous, on est extrêmement attachés, que ce soit la Via Campagnola ou la Confédération paysanne, sur une ligne extrêmement claire, que ce qu'on veut, c'est des installations, des paysans nombreux et pas des agrandissements. Pas que ce soit le plus gros d'à côté qui continue encore à agrandir son exploitation. Et c'est ça qui a conduit à un plan social dramatique de disparition des paysans partout en France et en Corse aussi, bien sûr.
Alors, il y a quand même une chose qui est particulièrement choquante. Bon, d'abord, un syndicaliste paysan meurt à cause de son activité syndicale, c'est quand même quelque chose de particulièrement révoltant, incroyable. Et le silence qui s'en est suivi, puisqu'il y a eu très peu de réactions de la part du gouvernement en général.
Oui, alors, il a clairement été assassiné, ça fait absolument aucun doute. Aucun doute. Aujourd'hui, l'enquête est en cours. Voilà, ça fait, c'est une des parties des demandes de la famille et de nos syndicats d'exiger que l'enquête puisse progresser le plus rapidement possible. Cet assassinat ne peut pas rester sans réponse, ne peut pas rester impuni. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer exactement sur les raisons de son assassinat, mais c'est dans notre esprit, sans aucun doute, lié à son engagement syndical. Voilà, d'une façon ou d'une autre, l'enquête finira par dire ce qui se passe, mais évidemment, et en plus, ça intervient très peu de temps après des déclarations très fortes pour la déclaration des terres agricoles, de la part de Via Campagnola de la sienne, de déclarations contre la MAFLA, de victoire de la Via Campagnola aux élections aux chambres d'agriculture. Ça fait beaucoup. Et effectivement, comme tu le disais, le meurtre d'un syndicaliste, d'un responsable syndical sur le territoire français, c'est un événement absolument dramatique. On a l'impression que personne mesure l'ampleur de cette déflagration, en tout cas, de cette façon-là. Et au regard de cette tragédie, on est complètement indigné du silence assourdissant du gouvernement. Il y a eu un pauvre tweet de la ministre de l'Agriculture. Pour nous, ce n'est pas une prise de parole publique du gouvernement et des plus hauts responsables politiques, des responsables agricoles. Voilà, les autres syndicats agricoles, à part le MODEF, ne se sont pas exprimés. On n'a pas eu un mot. Voilà, il y a aujourd'hui une tribune qui est signée avec la CGT, Solidaire, FSU, le MODEF, les Simples, et c'est tout, qui se sont associés à une tribune pour dénoncer ce silence assourdissant. C'est extrêmement inquiétant pour notre démocratie. On se demande jusqu'où notre démocratie semble malade pour que plus personne ne trouve le courage de dire quelque chose, d'exprimer une parole publique quand un syndicaliste est tué. C'est vraiment ça qu'on vit aujourd'hui.
Petite ferme n'a qu'un souhait, rester petite. C'est pourquoi elle s'obstine à rester sauvage. Sans trop de techniques, devenir grande avec les phytos comme mentor. C'est éclater la vie, même celle de ceux qui ne font pas de tort. À l'époque où grande ferme était gamine, on sortait de la guerre, fallait sortir de la famine. Maintenant la misère est entrée dans nos terres. Étape éclate les vers de terre dans Mortal Désert. Évidemment, il faut quand même de l'argent pour faire ses preuves chez les grands. Alors on trouve des clients dans des assos. Plus question de rester solo, plus de journées dans petite ferme des trèves, je ne crois pas que c'était volontaire. Les anciens, c'est certain, indirectement ont montré qu'en chier c'est bien. Demain, petite ferme et de fermeture pour préparer les fêtes avec sa progéniture. Petite ferme va enchanter le monde des fous. Elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses. Et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme. Désormais debout bien aux quatre vents. Sa réputation n'est maintenant plus à faire, tu comprends. Mais tu vois, ça n'est pas assez. Montrer que c'est possible, ça n'apporte pas de respect. Elle sait trop de quoi demain sera fait si elle reste seule dans son coin sans se mobiliser. Demain crèveront les paysans de la planète. Elle ne peut ignorer ceux qui croulent sous les dettes. Et son combat la mène un peu partout en France. Elle capte la colère, elle capte la souffrance. Petite ferme a choisi de se battre contre les méga bassines et le béton qui ne cesse de croître. Petite ferme. Petite ferme va enchanter le monde des fous. Elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses. Et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme. La com, la malbouffe à l'époque existait déjà. Avoir de tout, tout le temps, la tyrannie du prix bas. Les coups de pub qui font de nous des consommateurs. Faux catalogue du bonheur. Mais en parler sans arrêt, ça devient un récit, une fable. Ça s'imprime dans la rétine comme avenir désirable. Et si petite ferme veut faire parler d'elle, doit-elle user des mêmes codes au risque de brûler ses ailes? Merde, dans le passé, ces fermes étaient des milliers. On s'en sortait très bien sans les supermarchés. Et je ne crois pas que nous soyons plus stupides qu'avant. Juste surexposés au confort, au putain d'écran. Pour la tech, le fric vient de nos addictions. Pour les paysans. paysan, il vient du chou, des dios et du reblochon. Et pour être sûr que tout le monde s'en procure, petite ferme assure, broc à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu dégustes. Petite ferme le sait et garde l'envie d'être juste. Elle sait le bio c'est chaud quand le 12 t'es déjà sous zéro. Et les iPhones sont des marqueurs sociaux plus sexy que des poireaux. Alors, sache que petite ferme n'est pas que contestataire. Elle invente, elle innove et elle défend les terres. Soucieuse du sort de nos frères, elle propose le plan de la sécurité alimentaire pendant que le système survit sous perfusion. Tu sais, ça c'est juste la question du choix d'où sont fléchés les bifetons. Ça fait 1000 ans qu'elle nourrit nos sœurs, et encore petite ferme va remplir vos corps et vos cœurs. Petite ferme va enchanter le monde des fous, elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses, et t'inquiète tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme.
C'était une manifestation très bon enfant, on n'a rien cassé du tout. À la fin, les gendarmes nous ont dit, bon, il faut partir. Donc on a pris nos affaires, on est parti tranquillement. Et puis on s'est retrouvé complètement nassé. On n'a pas compris, on a dit, bah, attendez, on part, vous demandez de partir, on s'en va, pourquoi vous nous bloquez? Les gendarmes ne nous ont pas répondu. Puis ils ont attendu que la BRAVEM arrive. Et là, ce qui était choquant, c'est que donc on était, je pense, une centaine, 100, 120, peut-être à être nassés. Et on a vu des gens de la BRAVEM par groupe de 4-5 venir choper des individus à l'intérieur du groupe. Et il y avait un type qui était immense, qui faisait peut-être... Moi, je ne suis pas petit, mais il était plus grand que moi, beaucoup plus baraqué, il devait faire 2 mètres ou 2 mètres 10, je ne sais pas. Et du coup qui s'est précipité à l'intérieur juste à côté de moi, chopé je ne sais plus quel était le prénom du paysan qui était à côté de moi. Donc du coup on s'est agrippé les uns les autres. Moi je n'ai pas touché un seul gendarme ou un seul type de la BRAVEM, mais on était agrippé les uns les autres et forcément ça a tangué fortement. Je me suis retrouvé, tout le monde a basculé, je me suis retrouvé par terre avec plein de mecs par-dessus. Je n'avais pas envie d'être étouffé, donc j'ai levé les bras pour dire bon, c'est bon, je fais plus rien. Mais là, il y a un type de la BRAVEM qui m'a écrasé la gueule, mais vraiment écrasé la gueule complètement, très violemment au sol. Ensuite, alors que j'étais complètement, je ne touchais plus du tout l'autre paysan, il me prend par le pied, il me tire sur 5 mètres pour me mettre à côté. Et je me suis relevé, donc complètement choqué, je saignais du nez, je saignais de l'oreille. Et là, je n'ai pas compris toute cette violence, parce qu'on était complètement non-violent et moi j'ai jamais touché un seul gendarme, j'étais juste là en train de retenir le paysan pour pas qu'il embarque, c'est tout. Donc ça c'est une violence que je comprends pas, quoi. Et c'est vrai que je suis rentré chez moi, comme l'a dit Sylvie, j'étais un petit peu choqué là. J'ai dormi la première nuit pas très bien, après ça allait mieux, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez choquant. Vous avez en face de vous des gens d'où vous ne voyez que les yeux. Qui sont masqués, casqués, etc. C'est assez violent, quoi. Voilà.
Aujourd'hui, ce 4 février 2025, on est près du tribunal de Paris dans le 17e arrondissement, car aujourd'hui, deux membres de la Confédération paysanne passent en procès suite à une action du 5 décembre 2024. Mais on va en parler avec une membre de la Confédération paysanne qui va se présenter.
Bonjour, Sylvie Collas, secrétaire nationale de la Confédération paysanne et paysanne dans le Gers.
Alors j'aimerais que vous me parliez un peu du point de départ de ce procès aujourd'hui.
Alors le point de départ, c'est la mise en garde à vue de deux de nos collègues, enfin cinq ce jour-là, suite à une action qu'on avait fait devant le Grand Palais, où il y avait le rassemblement de la bourse des traders, si je puis dire, toute la bourse des céréales, où nous avons été symboliquement étendre une grande banderole pour dire « sauver un paysan, manger un trader ». En fait, c'était pour dénoncer la spéculation sur l'ensemble des céréales et donc les profits qui se font sur le dos des paysans et notamment sur leurs revenus, puisque vous savez tous que les paysans sont toujours en colère, n'ont pas de revenus et que c'est la crise qui s'accumule, qui explique qui explique notre mobilisation. Et donc, nous avons été nassés ce jour-là par la Brave M au moment où nous quittions les lieux, alors que nous n'avions commis aucune dégradation, simplement mis une grande banderole, simplement poussé la chansonnette. Et voilà, et donc la Brave M est venue nous cerner et a mené plusieurs opérations d'action d'intimidation violente en se jetant sur notre groupe et en extrayant 5 personnes. Et ces 5 personnes, 2 aujourd'hui comparaissent pour soi-disant violences face à l'autorité publique.
C'est-à-dire qu'il y a 3 autres personnes qui vont comparaître après ?
Non, les autres ont été en fait relaxés après la garde à vue, n'ont pas été poursuivis. Donc là, il y a 2 personnes, dont une femme. C'est pour tout le monde l'incompréhension, mais elle a vraiment été jetée au sol et même elle a été blessée pendant l'intervention de la force policière. Et donc, voilà, on a l'impression qu'ils ont voulu se rattraper en justifiant qu'elle aurait commis des actions contre eux, alors qu'en fait, elle était la première victime de cette violence.
Alors, si je ne me trompe pas, ça rentrait dans le cadre des accords du Mercosur.
Tout à fait. Depuis toujours, la Confédération paysanne est contre les accords de libre-échange et particulièrement celui du Mercosur qui est en cours de signature, qui est toujours en tractation, mais qui s'applique déjà en partie. Ces accords de libre-échange sont liés à l'Organisation mondiale du commerce. Et cette Organisation mondiale du commerce, qu'est-ce qu'elle fait en fait ? Elle troque, elle négocie, eh bien, en l'occurrence pour le Mercosur, des produits agricoles tels que de la viande, de la volaille, de bovin, contre l'exportation pour la France dans ces accords de libre-échange de technologies, de voitures, etc. Et nous, on dit que l'alimentation n'a rien à faire dans les accords de libre-échange, n'a rien à faire dans cette spéculation économique, parce que l'alimentation, c'est la souveraineté des peuples, des paysans, des paysannes, mais de tous les peuples, ici d'ailleurs, et que nous mettre en concurrence les uns contre les autres, en nivelant toujours le prix vers le bas, pour à chaque fois, effectivement, permettre de gagner des parts de marché et se concurrencer dans quelque chose d'impitoyable au niveau du social et au niveau de l'environnement, c'est une destruction de toute façon de tous les paysans et paysannes et c'est un danger aussi pour l'alimentation de nos concitoyens, y inclus de la perte de la biodiversité et de l'environnement quand on voit le Mercosur et les pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, voilà, et ces pays, effectivement, on sait très bien la destruction de la forêt amazonienne, on sait très bien les conséquences de la production de soja OGM là-bas, et donc forcément de l'appauvrissement de l'alimentation vivrière des peuples autochtones là-bas, ou des paysans tout simplement, pour une fois de plus nourrir la France avec des produits de bas de qualité, mais pas chers. Donc on remplit des ventres avec une alimentation pas chère, qui finalement est dangereuse pour tout le monde, mais pour le coup ça permet toujours de consommer d'autres matières, des voitures et d'autres biens de consommation qui eux n'ont pas comme l'agriculture la difficulté du climat, la difficulté du cycle de vie, de la saison, de la saisonnalité, des maladies, des épidémies qui font que les agriculteurs ont beaucoup de variables dans leur travail au quotidien. Et là, dans ces accords de libre-échange, ben nous, on nous met en concurrence sur des choses qui sont mécanisées, robotisées, numérisées et qui n'ont pas du tout, et pour lesquelles certains savent très bien se rémunérer, ce qui n'est pas le cas des paysans.
Quel retour vous avez justement, parce qu'on parle souvent que la France va recevoir des produits de d'autres pays, parce que je sais qu'avec Via Campesina notamment, vous êtes en lien avec des paysans d'autres pays. Quel est le retour de ces paysans justement ? Qu'est-ce qu'ils disent eux justement, ce qu'ils doivent recevoir aussi ces produits-là, j'imagine ?
Mais avec la Via Campesina, dont fait partie la Confédération paysanne, mais nous, moi j'étais d'ailleurs à la COP16, à Cali, en Colombie, là au mois d'octobre, où justement nous étions une délégation internationale de la Via Campesina pour défendre la biodiversité, parce qu'on sait que maintenant, de toute façon, l'économie, elle est mondiale, mais la biodiversité, le climat, la santé d'autrui, c'est mondial. Il faut avoir cette approche planétaire. On ne peut plus fermer les frontières de cette façon et penser que nous, on aurait le droit de se nourrir à pas cher au détriment des autres paysans de l'autre bout du monde. Et c'est là que la Confédération paysanne, c'est d'abord un syndicat solidaire envers tous les peuples du monde. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des protectionnismes sur certains marchés, mais ça veut dire de la régulation des marchés. Ça veut dire aussi qu'on ne devrait pas importer des produits en dessous de notre coût de production. Et c'est pour ça qu'on défend, par exemple, les prix minimums d'entrée. C'est-à-dire tous les produits qui seraient importés, ils devraient être au moins au coût de la production française, ce qui tirerait vers le haut, au niveau social et au niveau environnemental, les pays qui exportent. Pourquoi est-ce que nous, on devrait faire des profits sur la précarité, la détresse et je dirais même la pauvreté d'autres pays du monde? Surtout qu'il ne faut jamais oublier que 80% des paysans du monde sont sans tracteur. Nous, on est sur une modélisation, on se croit les seuls au monde. Mais loin s'en faut, la preuve, c'est que même... Et on le sait, nous, la Confédération paysanne, le modèle agro-industriel tel qu'il a été développé depuis 40 ans avec la FNSEA n'a fait que faire disparaître les paysans et paysannes ici. Et ce sera pareil dans l'autre bout du monde. Et ça, c'est une réalité. Et demain, chaque peuple aura des difficultés de souveraineté alimentaire.
Qu'est-ce que vous disiez les paysans quand vous étiez à Cali? Qu'est-ce qu'ils disaient, eux? Quels étaient leurs propos?
Alors, à Cali, les paysans là-bas, c'était très intéressant parce qu'on a tous le même problème. On a le problème de l'accaparement des terres. Alors évidemment, pour nous, moi qui suis du sud-ouest, c'est la 69, l'autoroute à 69, qui donc prend des terres agricoles, à peu près 800 hectares de terres qui vont être absorbées par du béton. Mais là-bas, eux, en Colombie, mes collègues de Colombie, c'est l'extraction des mines qui fait qu'on s'accapare des milliers d'hectares, qu'on détruit des milliers de mètres cubes d'eau pour traiter aussi les produits de la mine, et ce qui fait que les paysans sont chassés aussi de leur territoire. Alors eux, c'est pas la même manière que nous, c'est-à-dire que c'est pas de façon juridique, expropriation, eux c'est manu militari. Et encore, il y a 10 jours, 100 personnes ont été tuées en Colombie, 11 000 ont été déplacées suite à des exactions. Alors il y a le narcotrafic, mais il y a aussi derrière toute ce trafic organisé de l'accaparement des ressources par des grandes sociétés minières. Et derrière ces sociétés minières, je dirais, c'est comme nous, derrière nos sociétés qui spéculent sur les céréales, c'est des spéculateurs, c'est des gens qui font du profit, de l'argent. Oxfam a dénoncé encore il y a 10 jours dans son rapport qu'il y avait 4 milliardaires en plus par semaine dans le monde. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour faire du social, il n'y a pas d'argent pour faire de l'environnement, il n'y a pas d'argent pour bien nourrir les gens, il n'y a pas d'argent pour avoir des écoles, pour avoir des hôpitaux et une santé équitable dans l'ensemble du monde, c'est pas vrai. Il y a de l'argent, mais il est accaparé par quelques-uns. Et ça, c'est pas surréaliste que je dis, c'est la vérité. Et c'est la vérité qui est produite par cette spéculation des systèmes mondiaux et de dirigeants qui sont de plus en plus entre eux, avec une façon aussi de vouloir, comme tout dirigeant, le pouvoir, l'argent, la domination. Et c'est tout ce que l'homme a de plus malsain.
Il semblerait que l'État français, le Premier ministre et son gouvernement actuel veuillent faire une petite fleur un petit peu au productivisme agricole, puisque il y a certaines normes qui vont être des normes environnementales, qui vont être élargies, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, du coup?
Alors pour moi, ce n'est pas une petite fleur. Là, le gouvernement et Madame la ministre de l'Agriculture suit la feuille de route de la FNSEA. Et donc, demain, c'est là qu'on... On les trouve complètement délirants. On est en train de voir disparaître les agriculteurs. On est 350 000, on sera 200 000 dans même pas 10 ans, à cause de la pyramide des âges et le fait que les fermes se sont agrandies. Et tout ça pour être de plus en plus dépendant. J'étais aux assises du sanitaire la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce qu'on voyait? L'élevage, les productions d'élevage disparaître totalement en France, mais d'une façon dramatique, parce que l'élevage, c'est un savoir-faire, c'est beaucoup de capitaux, et que les jeunes qui s'installent n'arrivent pas à avoir ces capitaux, et que de toute façon, c'est aussi très contraignant, ce métier d'éleveur aussi. Donc on s'aperçoit qu'on est dépendant pour la moitié de notre consommation de volaille, par exemple. Donc, en fait, ce gouvernement, de remettre plus de chimie, des néonicotinoïdes qui vont tuer nos abeilles. Mais tout le monde sait la dangerosité des néonicotinoïdes, perturbateurs endocriniens, dont on ne sait pas les conséquences, mais qu'on imagine très dramatiques. Si ça perturbe les abeilles, on imagine très bien l'humain, nos petits-enfants, tous les gens qui vont consommer de l'eau, parce que forcément tous ces produits pesticides dans la nature se retrouvent dans la chaîne alimentaire, se retrouvent dans l'eau que nous consommons, se retrouvent dans toute la biodiversité qui disparaît. 70% de la biodiversité a disparu en 30 ans. On est la seule génération, moi je parle de la mienne, je suis née dans les années 62, qui aura su détruire la biodiversité. Une génération, ça va très très vite. Et c'est là qu'on avait besoin maintenant justement de renverser la table au sens de dire ça suffit. Et c'est ce qu'avait dit le Green Deal. L'Europe avait essayé de porter des choses plus sur l'environnement, sur une politique agricole plus verte. Et là, on détricote tout, on fait machine arrière toute et c'est au détriment de la santé des gens. Et ça, ça nous coûte très cher. C'est plus de 19 milliards par an qui sont dépensés pour la santé humaine. Liés à la malbouffe, que ce soit les pesticides, cancer, ou que ce soit le fait qu'il y ait de plus en plus de diabétiques, de gens obèses, parce que justement, ce n'est pas une alimentation de qualité, on produit de la bouffe, on ne donne pas une alimentation de qualité équilibrée, parce que la variable d'ajustement du budget d'un ménage, c'est, hélas, l'alimentation. Donc c'est des choix politiques. Et ces choix politiques, on ne les fait pas. Au contraire, on insiste. Et on insiste avec la violence qu'on a eue au Grand Palais, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas d'accord, de toute façon, on va vous faire marcher au pli. Et nous, on ne marchera pas au pli. Il n'y a pas de raison. On sait que c'est nous qui avons raison. C'est ça qui les dérange. Ils ont cette réalité en face d'eux parce que de toute façon, c'est l'humanité qui est en danger. Et je pense que ces gens-là, ils ont aussi des enfants et des petits-enfants comme moi. Et qu'est-ce qu'on leur souhaite aux générations futures ?
Ce procès aujourd'hui qui se tient donc, aujourd'hui ce 4 février 2025, vous en attendez quoi et qu'est-ce que vous voulez en faire, si on peut dire comme ça ?
Alors ce procès, bien sûr qu'on attend la relaxe de nos amis, parce que si nous, la Confédération Paysanne, on est violent, alors qu'est-ce que sont les autres ? Quand on a vu toutes les dégradations, que ce soit la ville de Bordeaux, le miroir d'eau, brûler la porte de la mairie de Bordeaux, qui est un monument historique, enfin, on a vu des exactions irréversibles, très violentes, même vis-à-vis des forces de l'ordre. Et nous, on nous a malmenés parce que, justement, on est le grain de sable qui dénonce la vérité des choses. Donc, ce qu'on attend, c'est ça aussi. C'est que, justement, on parle du fond. Pourquoi nos collègues sont au tribunal aujourd'hui ? C'est parce qu'on a dénoncé qu'aujourd'hui, les agriculteurs, les paysans et les paysannes ne vivent plus, n'ont pas de revenus décents, que l'alimentation est en danger, la souveraineté alimentaire telle qu'elle doit se définir dans la production localisée, équilibrée des territoires, est en danger et qu'on ne doit pas spéculer sur l'alimentation des hommes et des femmes.
Quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié ?
On peut juste dire qu'heureusement que les citoyens sont là pour nous soutenir, mais ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas de politique environnementale sans politique sociale et qu'on a besoin aussi que tous les travailleurs et les travailleuses soient rémunérés aussi à leur juste valeur, ce qui n'est pas le cas en France actuellement.
Je vous remercie.
Je suis Clem Conversé-Doré, je suis porte-parole d'Action Justice Climat. Et depuis quelques années, notre présence devant ce tribunal est de plus en plus fréquente, puisque déjà en septembre dernier, nos activistes étaient en procès pour des graffitis faits à la bombe en 2020. En décembre, on était là pour soutenir un autre activiste qui était accusé à tort de violence contre les forces de l'ordre pendant le blocage de l'AG de Total en 2023. D'ailleurs, son délibéré a été rendu le même jour que celui des porte-paroles des soulèvements de la Terre, et heureusement, ils ont tous été relaxés. Dans quelques jours, 8 de nos activistes qui sont en procès depuis 2020 suite à notre action à Roissy connaîtront la date de leur audience en cassation. Un autre activiste sera aussi en procès suite au blocage de l'AG de Total en 2023. Et la liste, elle est encore longue. En tout, c'est pas moins d'une vingtaine de procès qu'on a eu, et même des convocations qu'on a en moins d'un an. Et aujourd'hui, c'est deux camarades de la Confédération Paysanne qui sont convoqués pour avoir dénoncé la financiarisation de l'agriculture et le monopole de l'agro-business sur les céréales. La justesse de cette cause, elle est plus à prouver puisque les traders de la céréale, ils traitent le monde agricole avec un mépris que seul Macron saurait égaler. Et ces militants sont accusés à tort de violence et de tentatives d'intrusion. Mais rien par contre pour tous les policiers qui les ont brutalisés, piétinés et frappés. Et rien non plus pour la coordination rurale, syndicat agricole proche de l'extrême droite qui depuis plusieurs mois attaque délibérément les bureaux de l'Office français de la biodiversité ou menace ses agents comme ils l'ont fait pas plus tard que la semaine dernière. Et tout ça en s'opposant physiquement aux forces de l'ordre présentes pendant leurs actions, sans aucune conséquence. Vraiment, c'est deux poids, deux mesures. Et pour cause, la répression, elle sévit contre les opposants au gouvernement et au patronat, dont l'objectif limpide de les intimider. Qu'elle soit financière ou judiciaire, cette répression, elle devient systématique pour des motifs de plus en plus farfelus. Enfin, des accusations de violence contre la police faites à des activistes non violents, malgré des preuves vidéo, vraiment. Mais il ne faut pas se leurrer, ils veulent aussi nous faire peur, mais aussi nous faire perdre du temps et de l'argent en nous submergeant de procédures qui, pour la plupart, aboutiront sur une relaxe. Tout ça, on en est conscient et consciente, et on ne va pas se laisser faire. On soutiendra les camarades jusqu'au bout parce que leur action, elle est légitime et nécessaire. Et contre les intérêts privés, contre l'appropriation des ressources par quelques-uns, on continuera à se soulever, et cette répression insensée, elle nous fera pas taire. J'envoie vraiment tout mon courage aux militants et militantes de la Confédération paysanne pour lesquels on est là aujourd'hui. On est là pour les soutenir, et on sera toujours là pour celles et ceux qui se battent pour l'intérêt commun.
Merci d'être restés jusque-là. Du coup, c'était bien une audience de comparution immédiate. Du coup, ils ont d'abord passé des gens qui étaient, prévenus et tout. Donc, on voit des séquences un peu dures, de la vraie vie dure des gens, en fait. Et finalement, quand on est arrivé à l'affaire qui nous concerne, c'est la présidente du tribunal, effectivement, qui a demandé le renvoi. Je pense qu'elle a pris la mesure que c'était pas une question anodine, qu'il fallait un peu de temps pour traiter cette affaire. Le fait qu'il y ait un témoin de convoqué et tout ça, et du coup elle a proposé le renvoi qui a été accepté par tout le monde. Il y avait, je pense que je peux le dire ça, il y avait dans la salle, c'était un moment un peu dur, trois membres de la BRAVEM, dont un de ceux qui portent plainte contre l'un d'entre nous. C'est des moments un peu surréalistes, mais voilà. Du coup, renvoyez, tenez-vous bien, sortez les agendas et tournez les pages. 14 octobre, 13h30. Ça va sentir le réchauffer, cette affaire, visiblement. Voilà. Donc, sur la 24e chambre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Avec vraiment une après-midi dédiée peut-être pas exclusivement à cette affaire, mais en tout cas avec le temps nécessaire pour pouvoir entendre les témoignages, les différentes parties et toutes les pièces qu'il y a à voir.
Le contrôle judiciaire est levé, donc du coup l'obligation de pointage elle est levée, ce qui est quand même très très appréciable. Étant donné que l'audience est reportée à dans 6 mois, ça aurait été une obligation très lourde. Après, des arguments principaux de l'avocat, ça a justement été de dire que c'était aussi parce que la relaxe était fortement espérée et a priori atteignable, quoi, que c'était ça pouvait être accordé.
Vous étiez l'une des deux personnes qui comparaissait ce matin, ce 4 février 2025, au tribunal de Paris pour une action que vous aviez menée en décembre dernier. Donc vous êtes ressortie, il y a un procès en octobre. Déjà, je voudrais vous demander comment vous avez vécu ce procès.
Assez sereinement. De toute façon, on est assez serein sur ce qu'on a fait. Et donc on n'est pas trop inquiet. Après, c'était très rapide puisqu'il y a eu un renvoi, donc on n'a pas traité du fond. Voilà, on était serein. Voilà.
Il y avait les agents de la BRAVEM à l'intérieur, hein, qui étaient de l'autre côté.
Sur le banc des victimes.
Ouais. Sur le banc des victimes, c'est toujours un grand moment, hein, quand ils sont sur le banc des victimes. Comment vous avez vécu ça un petit peu?
Pas étonné. Et c'est son droit d'être là, il se défend. Il s'estime victime, On verra bien ce qu'on dit le tribunal. En tout cas, moi, j'ai déposé plainte aussi sur violence sur ma personne. Et j'ai aussi fait un signalement à l'IGPN sur les méthodes qui ont été utilisées. Puisqu'aujourd'hui, même si on est sur le banc des accusés, en fait, nous sommes aussi victimes, du système économique qui fait que les paysans, en général, sont pauvres et ont des conditions de vie difficiles. Donc là, c'est la violence structurelle sur laquelle on a manifesté, dénoncé au Grand Palais lors du Salon de la Bourse de Paris en décembre. Voilà. Et puis c'est quand on a été nassé que... La répression policière nous est tombé dessus. Après des interpellations brutales, le calme des manifestants en général a disparu et beaucoup d'agitation, d'affolement, d'incompréhension de ce qui se passait, de pourquoi autant de brutalité pour arrêter des gens. Il y avait zéro sommation, enfin bref. De leur côté, le cadre dans lequel ils ont agi était, à mon avis, pas légal. Donc c'est sur ça qu'on va batailler au tribunal, c'est ça qui va prendre du temps, et ils ne vont pas régler ça en 15 minutes dans une comparution immédiate.
Vous parliez de paysans pauvres, vous êtes de quelle région ?
Alors moi je suis de Savoie, voilà, et globalement, il y a des paysans qui gagnent bien leur vie. Moi j'ai fait de l'étude de quelques fermes qui sont quand même bien installées dans le paysage, des fils de paysans qui ont repris, qui ont machin, ça. Ok, ils arrivent à gagner plus de 2000 euros par mois, mais si on calcule au prix de l'heure, comme ils travaillent à peu près 70 heures par semaine, ils sont autour de 6-7 euros de l'heure. Donc voilà, ça c'est une forme de pauvreté, et ça c'est une forme aussi où de difficulté du métier, où on est dans des mauvaises conditions, c'est que pour pouvoir gagner à peu près correctement notre vie, on est obligé, on est très loin du SMIC. Pour beaucoup, on est très loin du SMIC, quoi. C'est peut-être un métier passion, mais c'est aussi un métier où on a une condition de vie sociale qui est quand même difficile. On doit travailler par tous les temps, tous les jours. Moi, je pense à un collègue là, 6 jours sur 7, il travaille. Une semaine sur deux, c'est 7 jours sur 7, puisqu'il fait aussi le dimanche. Voilà. Voilà. Et puis, il prend qu'une dizaine de jours de vacances dans l'année. Donc, socialement, c'est quand même difficile à vivre comparé à la moyenne de la population.
Vous avez participé à une action sur le chômage aussi. Comment vous avez fait le lien entre les deux, justement, d'un côté, effectivement, la paysannerie, et puis de prêter un peu une main à des gens qui se mobilisaient contre Pôle emploi à l'époque, quoi. Ouais.
Alors, on avait fait une action devant le siège social de Pôle emploi à Paris, et nous, ce qu'on revendique à la conf, c'est d'être des paysans nombreux et bien répartis. Aujourd'hui, la paysannerie, elle vit un plan social depuis 40-50 ans, où chaque semaine, il y a 200 fermes qui disparaissent, et d'année en année, on perd 2% de paysans, voilà. Bon, ça, quand ça se passe dans le secteur industriel, on parle de plans sociaux, on parle de... Voilà, et puis on voit les choses, on sent que les choses sont beaucoup plus dramatiques. Pour l'agriculture, on a l'impression que c'est normal. Alors, dans, on va dire, peut-être les années 40, 50, 60, 50, 60, 70, il y avait peut-être une espèce de plein emploi. Et puis, quand on quittait la campagne, on retrouvait du travail très facilement en ville. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Donc, l'objectif de réduire le nombre d'agriculteurs, si c'est pour derrière créer des chômeurs, c'est pas intéressant pour le pays, pour les citoyens en général. Donc du coup, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place des systèmes économiques qui permettent de rémunérer des producteurs nombreux pour qu'on puisse bien faire notre travail partout, de manière diversifiée, offrir des produits de qualité à tout le monde. Et c'est ça le sujet, en fait, c'est qu'il faut être nombreux pour bien faire notre métier.
Alors, il y a agriculteurs et petite paysannerie aussi. Et il semblerait que parfois, l'écart se tend, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les exploitants agricoles. Parce qu'il y a, on va dire, plusieurs stades d'exploitants agricoles, l'agriculteur et la petite paysannerie. Comment, à un moment, tout ça va pouvoir fonctionner ensemble? Parce qu'aussi, il y a un peu des remises en question de la petite paysannerie, parce qu'on sent qu'il y a les plus gros. Et puis, de l'autre, en bas, il y a la petite paysannerie, par exemple, des gardiens de troupeaux et tout ça, quoi.
Alors, paysans, agriculteurs, exploitants agricoles, c'est des termes différents pour désigner ce qu'on appelait les agriculteurs. Nous, on parle de paysans parce que le paysan, c'est celui qui vit au pays, normalement, et c'est celui qui cultive la terre et qui façonne la terre. Voilà. L'agriculteur, c'est un terme plus générique. Exploitant agricole, c'est le terme utilisé officiellement par la MSA. C'est un terme plus juridique, officiel, mais qui veut dire à peu près la même chose. Donc chacun se dénomme comme il veut. Il y en a qui peuvent se dire paysan et être à la tête d'un système agricole assez intensif ou plutôt industriel. Donc chacun met un peu le mot qu'il veut sur sa fonction. Après, il est évident que aujourd'hui, Si on est de moins en moins nombreux, si dans les années 70 on était 1 500 000, on est à peu près 400 000, 450 000 en ce moment, quoi. Forcément que les fermes ont, la taille moyenne des fermes a grandi. Et ce qui permet d'agrandir la taille des fermes et de la surface travaillée par agriculteur, c'est la mécanisation, la spécialisation, principalement. Et il y a des avantages, parce qu'on est bien content sur certaines tâches d'être aidé par la machine, il y a aussi des inconvénients sur le nombre de personnes qu'on emploie, sur la manière dont on s'y prend pour produire, sur la qualité qu'on produit au final, et sur, on va dire, les coûts cachés de certains systèmes d'exploitation agricole qui sont payés par ailleurs, parce que soit on a des produits qui sont intrinsèquement de mauvaise qualité, soit on a des produits qui peuvent être plutôt de bonne qualité mais dont les conditions de fabrication génèrent des pollutions externes, l'eau, l'air, voilà. Et on peut aussi avoir des conditions d'exploitation qui fait qu'on n'est plus que le seul paysan sur notre commune et autour de nous il n'y a plus personne.
Pour terminer, pour revenir sur l'audience d'aujourd'hui, vous êtes assez confiant pour la suite ?
Eh bien, le délai qui nous est accordé, là, on a eu un mois pour se préparer. Bon, c'était un mois où aussi on était dans les élections chambres d'agriculture. Donc, on a privilégié d'abord le temps qu'on avait pour mettre à profit pour les élections chambres d'agriculture. Là, on va avoir à peu près 6 mois pour se préparer. Et du coup, on va pouvoir mieux se préparer. On pourra citer les témoins qu'on veut, parce que là, aujourd'hui, c'était dans le cas d'une comparution immédiate, et du coup le temps est contraint, les personnes qu'on peut faire témoigner sont limitées, du coup oui, on est davantage confiant qu'on aura un procès plus équitable.
Bon ben voilà, c'est une petite victoire d'étape, on va dire comme ça, le feuilleton n'est pas fini, la question des violences policières, du droit d'exercer, de faire du syndicalisme et de lutter pour notre revenu, et c'est un combat qu'on va évidemment et toujours continuer à mener. Merci à tous.
Je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur notre petit, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.